Je ne dors jamais. J'attends, moi. J'attends dans l'ombre. Et je vous...
Papa, à quoi tu joues ?
Bonjour, je suis Jean.
Salut, moi c'est Arnaud.
Nous sommes en juin, vous allez pouvoir sauter par-dessus mon corps en feu à la fin du mois parce que ce sera la Saint-Jean, tout en écoutant cet épisode de Papa, à quoi tu joues ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 56e épisode du podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvre une petite porte sur la culture vidéoludique. Je suis Jean et avec Arnaud, on vous accueille pour parler de jeux vidéo, évidemment, et de son actualité. Bonjour Arnaud, ça va bien ?
Ça va bien, ça va bien.
Oui, mais tu es fatigué quand même.
Pas mal, pas mal. Ouais, je suis en plein déménagement dans les boîtes, dans les cartons, dans le. Ouais, c'est ça.
Donc voilà, c'est pour ça que.
Démontage, remontage.
Ikea. On passe au jeu du mois pour de vrai. Assassin's Creed. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, sortait sur PlayStation 3 le premier épisode de la série des assassins. Plutôt enthousiaste, je finis le jeu avec plaisir, le trouvant bien sympathique et c'était amusant cette technologie Animus qui permettait de parcourir ce concept débile de mémoire génétique. Puis vint le second opus qui m'a hypé au plus haut point parce que j'ai déjà visité et adoré la ville de Florence plusieurs fois, donc tout était réuni pour que le charme soit total. Ce fut le cas. Mais je sens sur la fin du jeu un peu comme une certaine répétition, une lassitude, mais bon, c'est pas grave. Et puis, là, les DLC pleuvent. Puis, des jeux standalone en forme de parenthèse par rapport au second opus. Me sentant considéré un peu comme un boboche, qu'on voudrait plumer, j'ai fait un grand et majestueux doigt d'honneur à la série. Les années passent. J'entends les critiques des nouveaux épisodes de moins en moins enthousiastes, et je me dis que j'ai bien fait. Avec une exception cependant, Black Flag, pour ses batailles navales. Puis un jour, arrive Unity, beau comme un dieu grec avec le corps huilé. Pas de PS4 à l'époque, et mon PC ne pouvait pas faire tourner un truc pareil. J'ai patiemment attendu un Shadow, et l'an dernier, j'ai pu mettre ma main sur Unity. Une grosse, mais alors une très grosse claque. La série n'avait quasiment pas bougé d'un iota, mis à part une palette de mouvements plus étendue, ce qui rendait le gameplay clairement insupportable, les largesses d'action étant bien trop importantes, je me retrouve une fois sur deux à faire une action que je ne voulais pas faire dans ma course sur les toits. Par contre, niveau visuel, mes yeux sont choyés entre deux bugs. Et je suis loin d'y jouer Day One, hein. Donc, au bout d'un moment, je me suis lassé par l'action répétitive et l'insupportable accent canadien des personnages du jeu. J'ai rien hein, contre l'accent canadien, hein. Mais bon, c'est Paris quand même.
Oh, ouais, bon.
Bref.
Tu sais pas.
Je ne finis pas le jeu, ça me saoule bien trop. Et je le regrette profondément parce que l'ambiance, je l'aimais bien. Un temps passe et je récupère Black Flag pour 5€ et je m'y essaye. Eh ben non, j'ai l'impression de jouer encore au même jeu et j'ai même pas le courage de quitter la première île avant de virer le jeu de ma machine. Plus jamais, jamais, je ne toucherai à un Assassin's Creed. Évidemment, j'avais vu les promos, les teasers, les leaks d'Assassin's Creed Origins, mais sans aucune hype. Je me suis dit, ok, les origines des assassins, on va encore nous bassiner avec leur histoire méta et leurs artefacts et la bataille de l'ordre des Templiers, Abstergo, tout ça. Mais j'en ai vraiment rien à carrer. Moi, ce que je veux, c'est une aventure dans le passé et puis c'est tout. D'autant que dès que tu loupes un épisode, leur histoire d'Abstergo et tout le bordel, c'est très vite abscon. Et dans abscon, hein, il y a con. Donc, Assassin's Creed Origins, très peu pour moi. Le temps passe, jusqu'à la sortie du jeu, et ma hype n'est pas montée d'un poil. Elle est toujours bien profonde, 6 pieds sous terre. Les premiers avis commencent à pleuvoir et les gens qui, d'habitude, n'hésitent pas à vomir tout leur agacement quant à la série des assassins qui ne se renouvellent plus et qui... complet dans une paresse, d'un coup, déclarent leur vif intérêt quand ce n'est pas leur amour pour le jeu. Voilà donc qui pique ma curiosité. Et à partir de là... Et de fil en aiguille, mon intérêt grandit, et je me suis dit, bah ouais, il va falloir que, quand même, je me fasse un avis. Mais me faire mon propre avis, à 60 boules, certainement pas. Donc, quelques mois après la sortie du jeu, une petite promo, 30 euros, et me voilà parti en Égypte sur les traces de Bayek de Siwa. Bon alors, visiblement... Bayek, il a la haine, parce qu'on commence directement en mettant la misère à un mec qu'on ne connaît même pas. Et ben, en plus, ça marche. Dès les premiers instants, on se rend compte qu'on n'est pas dans un épisode d'Assassin comme les autres. La mise en scène est différente, bien meilleure. Les voix françaises sont de très bonne qualité, et surtout, sont plus les mêmes que dans les autres jeux, hein, non, parce que ça commençait à s'entendre un peu quand même. La narration a évolué, elle aussi. Que se passe-t-il ? Alors voilà le décorum. Bayek, c'est un Medjay, un protecteur du peuple au service du pharaon. Son père l'était avant lui et son fils se destine à en devenir un. Seulement, tout se passe pas comme prévu et Kemu, le fils de Bayek, se retrouve malheureusement décédé prématurément. Assassiné, évidemment. Eh bien, pour la première fois dans Assassin's Creed, j'ai eu de la compassion pour le personnage et même de l'empathie. Donc là, Bayek, c'est pas du genre à s'emballer. Et donc, il a la haine grave. Il veut se venger. Il aura mis un an à traquer les responsables et commence à les éliminer un par un. Pendant cette année, un nouveau pharaon est arrivé au pouvoir. Il n'est pas porté dans le cœur de son peuple, c'est Ptolémée. Il est jeune, il est cruel. Le Medjay, qui est Bayek, ne peut supporter d'avoir un tel tyran au pouvoir. Bayek va donc parcourir l'Égypte antique pour finir sa traque des responsables de son chagrin. Il sera de temps en temps épaulé par sa femme, Aya, qui est un personnage fort, mais à mon sens pas assez exploité. Le duo qu'elle forme avec Bayek ne tisse pas assez de liens émotionnels, et c'est dommage. Évidemment, le jeu en profite pour jouer avec l'histoire, hein, l'histoire avec un grand H, et l'aventure de Bayek s'entremêlera avec les magouilles politiques de Cléopâtre, qui est une nymphomane psychopathe notoire, et César, toi aussi mon fils. Tout cela pour savoir comment est née la confrérie des assassins. Et je dois confesser que le scénario m'a agréablement surpris dans sa construction, puisqu'il n'est question de cela que très tard dans l'histoire. On s'attend à ce que Bayek, jouant le justicier, se dise que c'est son destin. Et hop, en avant pour l'aventure, et il s'avère qu'Ubi a réussi à être plus subtil que ça. Et je dois bien confesser que mon petit plaisir coupable a été le moment, je ne sais pas quand est-ce que ça arrive, mais le moment où l'on apprend comment la marque des assassins a été créée. Dans Assassin's Creed Origins, on voit que le studio a joué à The Witcher 3, à Horizon Zero Dawn, à Tomb Raider. Cependant, à mon sens, il ne va jamais les égaler. Le système de quêtes nous fait voyager dans toute la map, mais pas aussi intelligemment que The Witcher. L'arc se révèle être un allié précieux, mais il est loin de procurer les mêmes sensations que dans Horizon. La mise en scène est efficace et fonctionne très bien, mais elle est encore en dessous de procurer le même spectacle que Tomb Raider. Au niveau graphique, dire que le jeu n'est pas beau serait évidemment mentir. Maintenant, il n'est pas impressionnant. À aucun moment, l'effet waouh que j'ai pu avoir sur les différents épisodes était là. C'est dommage, hein, parce que c'est sans doute le contexte Égypte ancienne qui n'offre pas les mêmes opportunités graphiques que Florence, Paris, Rome, Venise, les Caraïbes. Cependant, on accroche. Et pour la première fois, un jeu assassin me donnait envie d'assassiner. Pas en vrai, hein. Il y avait...
Alors, je t'aimais bien, Jean, mais alors... du coup...
Donc, il y avait un véritable enjeu de vengeance qui est enfin à notre portée, que l'on peut comprendre, palper. Et pour la première fois depuis longtemps, alors on en avait déjà parlé dans une émission il y a quelques temps, alors même que le jeu n'est pas véritablement agressif, en tout cas pas à longueur de temps, je me suis mis à attaquer de ma propre initiative. Normalement, j'essaie d'être gentil et d'épargner les gens sans une bonne raison. Mais voilà, là, j'avais la motivation de Bayek était mienne. Et tous ceux qui voulaient malmener l'harmonie et la paix de l'Égypte, eh bien, j'y allais même sans qu'ils me fassent quelque chose. La croisade de Bayek devient alors aussi la nôtre. Et c'est là que le jeu a réussi son pari. Le gameplay, revu et corrigé, est bien plus plaisant. Bayek fait ce que je lui dis de faire, 85% du temps. Ce n'est pas encore parfait, certes, mais au moins, je n'ai plus la frustration ou d'énervement à faire se mouvoir mon avatar.
Non, mais on sait bien que c'est toujours la faute à la manette.
Non, ça, c'est toi. Bayek dispose d'un arbre de talent en 3 branches. Oh, du RPG. L'arc, le corps à corps et les ustensiles. La manière dont on va remplir cet arbre va influer le gameplay. Par exemple, j'ai privilégié la branche arc très tôt afin d'être ce tueur silencieux qui domine le lieu et qui va attaquer le lieu qu'il va attaquer afin de nettoyer au mieux la zone avant d'y mettre un pied. Le courage avant tout. En développant les ustensiles, j'aurais privilégié une approche furtive, éliminant toute trace de mon passage, procédant ainsi telle une ombre insaisissable qui progresserait vers son objectif. En développant le corps à corps, j'aurai une approche moins subtile me permettant d'affronter des groupes d'ennemis sans me garantir une mort atroce à partir de 3 adversaires en même temps. Le tout avec les subtilités d'usage de croisement de branches. Je reviens sur le système de quête. Inspiré de The Witcher, très agréable, le suivi des quêtes est efficace. C'est dans l'enchaînement de ces dernières que j'émets une forte réserve. Les quêtes secondaires sont étroitement liées à la quête principale. Alors pourquoi c'est pas bien ? Mais en fait, elles ne prennent pas en compte la progression de la quête principale. J'ai donc pu me retrouver avec des PNJ en train de me dire « Ah, ce personnage, il nous fait bien des misères, hein ! Il faudrait s'en débarrasser, mais avant, il faut s'assurer que toutes les réserves de grains soient bien en sécurité !» Alors que j'ai déjà assassiné le personnage qui est la source de toutes les misères des paysans.
Voilà. Ça a mais après, si tu fais pas de jeu dans le bon sens aussi...
Donc voilà, ça a cassé mon immersion. Non, mais il n'y a rien qui te dit que de les faire dans ce sens-là.
Je sais bien, je me doute, ouais.
Donc ça a cassé mon immersion. Tant qu'on est dans l'immersion, tiens. Si d'aventure, en vous baladant dans le désert, vous voyez une météorite s'écraser près d'une pyramide. Faites comme si vous n'aviez rien vu. Hein. Revenez-y seulement après le endgame. Il s'agit en fait d'un event en partenariat avec FF15 qui vous proposera une énigme assez simple à résoudre et donnera lieu à une séquence avec des protagonistes de FF15, une séquence très courte, hein, avec des protagonistes de FF15. Les personnages laisseront sur place une épée et un bouclier tirés tout droit du jeu, donc avec un look qui dénote clairement avec l'univers de l'Égypte antique. Là encore, niveau immersion, on a connu mieux. Le monde...
Oh, c'est un peu de fantaisie, quoi.
Ah ouais, non, franchement, là, ça a vraiment eu du mal à passer, quoi. Le monde regorge de trésors à découvrir. Cependant, Ubi a réussi à se limiter et à moins remplir le monde que sur un Far Cry, par exemple. Pendant tout le jeu, j'ai eu l'impression d'être un archéologue qui découvre les secrets de l'Égypte et c'est un sentiment hyper plaisant. On a constamment envie de crapahuter partout à la recherche de tombeaux ou de trésors à trouver. Trouver des trésors, ça permettra de les revendre afin d'optimiser ses armes et son bouclier et là encore, on retourne sur des mécaniques de RPG hyper plaisantes. Il y a aussi des ressources à récupérer, comme des peaux de bêtes qu'il faudra donc chasser. Et c'est pas comme Lara Croft. Là, c'est pas comme dans Tomb Raider. Pour moi, là, ils ont réussi à faire mieux. Parce que dans Tomb Raider, au bout d'un moment, tu chasses au début du jeu et après, t'en as franchement plus rien à faire parce que t'as déjà tout amélioré. Là, vraiment, ça se fait tout au long de ton aventure. Il y aura aussi du minerai à trouver, à récupérer sur des chars ou des bateaux de transport en parcourant le monde. Il y a aussi de la silice qui est un minerai rare aux propriétés étranges. Faut pas le truc. Ces matériaux permettront aussi donc d'améliorer l'équipement de Bayek et donc la puissance et l'efficacité de ses actions. La durée de vie du jeu est un jeu parfait pour les vacances d'été qui arrivent dans un mois, puisqu'il vous prendra entre 30 et 40 heures de votre vie. plus encore si vous êtes comme Arnaud et vous voulez le vider entièrement de ses quêtes.
Bon.
Là, genre. Il y a encore de l'aventure et des quêtes après avoir fini le scénario, la quête principale. Attention, c'est un jeu 18+, qui est visuellement violent. On peut y voir quelques scènes de sexe et parfois même surprendre deux amants en train de forniquer. Les peintures sur les murs des bordels sont plutôt explicites, hein, à coups de cunnilingus et de genre, et voilà. Vous voilà donc prévenus. Mais la violence est bien présente aussi, et Bayek n'est pas un enfant de cœur. Il n'hésitera pas à plonger son épée dans la gorge de ses adversaires ou bien même à les empaler sans vergogne sur une pique, avec les gerbes de sang qui vont bien et toutes les taches partout sur les murs, sur le sol et sur les habits. Et c'est qui nettoie après ? Merci. Il faudra donc bien faire attention, car empoisonnement, meurtre à l'arme blanche, flèche dans la tête sont au menu et ne préviennent pas toujours, à éviter donc quand vos jeunes enfants sont à proximité. Par contre, si vos jeunes enfants sont à proximité, profitez-en pour parcourir ensemble le DLC gratuit Discovery Tour. Alors, vous pouvez l'acheter sans acheter le jeu, donc en standalone, donc ça vaut 20€ en standalone. Le jeu vous proposera une quarantaine de visites guidées au cours desquelles vous arrêterez régulièrement pour contempler le paysage et vous écouterez et observerez ce que le jeu a vous proposé. C'est super intéressant, c'est vivant, bon sauf pour les tombeaux, hein, ça concerne les morts. J'ai fait la visite concernant la momification avec ma fille en me doutant que ça allait être un peu touchy, hein, quand même. Hein. On pouvait y voir un embaumeur dans les trucs un peu touchy, hein, un embaumeur trifouillé dans une entaille qui était faite dans le ventre du défunt. Mais bien heureusement, hein, on peut rester loin, on peut orienter la caméra de sorte à maîtriser ce qu'il y a de visible à l'écran. Donc les explications sont claires, simples, simples à comprendre, et finalement, ce qui a le plus perturbé ma fille, en fait, c'est pas le fait de tripouiller dans les entrailles du mec, c'était la photographie d'une tête de momie, que personnellement je trouvais largement acceptable, mais voilà, c'est peut-être la peau noire, noircie qu'elle a pas appréciée, ou je sais pas, mais en tout cas, elle a pas du tout apprécié. Bon, elle a pas fait de cauchemar non plus. Je ne les ai pas tous faits, mais à chaque fois, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super intéressant, vraiment super bien fait, hyper bien documenté. On voit les choses que le jeu a nous proposé, et il y a des photos, quand on appuie sur un bouton, on peut zoomer sur les photos, etc., passer de l'une à l'autre, c'est vraiment super bien fait. Par contre, comme je l'ai dit mois dernier, hein, aucun intérêt à faire ça directement en classe. Ça se fait peinard à la maison pour satisfaire sa curiosité, mais sinon, en classe, on a bien mieux fait de faire une capture vidéo et on diffuse le clip à toute la classe. L'avantage, ce sera quand on fera le clip vidéo d'une certaine visite, justement de diriger la caméra et insister sur certains détails. Mais sinon, vraiment, il n'y a aucune raison. J'ai vu aucun intérêt à ramener une PlayStation en classe et faire ça. Faire le tour en détail d'Assassin's Creed Origin en si peu de temps est impossible. Hein. J'ai juste survolé le truc. Hein. Mais voilà, vous avez une première approche qui si elle vous met l'eau à la bouche, y a de grandes chances que vous appréciez le jeu dans son ensemble, malgré les défauts qu'il a, dont j'en ai cité les plus importants. Une petite parenthèse pour vous signaler le mode photo, qui pour moi est le meilleur que j'ai pu avoir entre les mains en ce qui concerne le travail sur la notion de profondeur de champ. Le moteur graphique permet de s'exercer là-dessus en faisant des photos vraiment très très chouettes et de bien comprendre comment on utilise la profondeur de champ. Alors, il n'y a pas les données qu'on a sur un appareil photo, mais on pige très vite comment... ce que ça veut dire déjà que la profondeur de champ et comment on l'utilise, et on a beaucoup beaucoup de photos on apprend très vite à jouer avec ça et à maîtriser ça. Un truc là auquel je viens de penser à l'instant, justement concernant les photos, quand vous prenez une photo, et bien votre photo elle va s'afficher sur la carte du jeu, et cette carte elle est commune à tous les joueurs. Alors, je ne sais pas comment les photos sont sélectionnées, elles restent quelques jours sur la carte et les joueurs peuvent voir vos photos et vous voyez les photos de certains autres joueurs. Là encore, il y a un enfant qui fait le jeu, faites attention parce que il y a de la nudité. Alors, c'est juste des seins, voilà, mais je vous dis, il y a quand même de la nudité et beaucoup de joueurs s'amusent à prendre les seins en photo du plus proche qu'ils peuvent, et donc du coup les photos peuvent se retrouver sur la carte. Voilà, bon.
Pour voir quoi, la précision du grain.
Alors, du moteur, soit dit en passant, effectivement, la précision du grain sur la peau est quand même assez phénoménale. Mais je ne parle pas que dessin, mon cher.
Ouais, non, mais j'avais bien compris. Mais bon, il a fallu que tu regardes quelques-uns, j'imagine, pour t'en rendre compte.
Non, pas forcément, parce que quand t'es en mode photo, quand tu tournes autour de ton personnage, etc., parfois t'as un pélo qui vient mettre sa grosse tête au premier plan et te cacher la vue que tu voulais, voilà. Et donc, tu vois vraiment, même lors des séquences cinématiques, tu vois, le grain de la peau est super bien traité. Si par contre, un petit truc aussi, tant qu'on parle là-dedans, au niveau des expressions faciales, c'est pas non plus la fête. Voilà, quand on le compare à un Last of Us ou à Uncharted, voilà, c'est des mannequins de magasin.
D'accord.
Voilà. Je sais pas si t'avais des questions, je sais pas si j'ai été trop
long. J'en ai quelques-unes. Oui, non, moi j'ai trouvé ça très intéressant. C'était rapport à la mythologie. Donc on voit Lyon, l'histoire, on est dans une époque où voilà, on s'immerge dans l'histoire. Ouais. Mais je sais que moi j'aime bien aussi tout ce qui est mythologie antique, donc Osiris, etc. etc.
Ouais.
Est-ce qu'ils y font appel ou est-ce qu'on y a référence?
Oui. Je ne sais pas si tu te rappelles de la discussion qu'on avait eue là-dessus sur le fait d'intégrer des choses directement dans le jeu et pas de le demander dans le DLC et puis tu mets le DLC et puis tu as les informations alors que tu ne les as pas dans le jeu et que je t'avais dit que ce serait vachement plus malin que ce soit intégré dans le jeu.
Ouais.
En fait, là, tu as des trucs comme ça. Par exemple, sur tout le long de l'aventure, et ça rentre absolument pas dans les quêtes, sur tout le long de l'aventure, tu as des pierres. Je sais plus comment ils appellent ça. Donc, tu as des endroits partout dans le monde où tu as des pierres disposées selon des constellations. Et donc, toi, tu vas t'allonger sur ce site de pierres. Voilà, c'est un site de pierres. Tu vas t'allonger dans ce site de pierres. La nuit arrive et tu vas essayer de superposer la forme de la constellation sur justement le ciel étoilé. Et en faisant ça, donc t'as un petit dialogue que Bayek se remémore avec son fils sur une thématique. Et puis une fois que quand t'as presque aligné les étoiles. Bayek va dire deux petites phrases sur ça c'est Amon, celui qu'on ne voit pas, gardien de trucs, machin. Donc t'as des petites informations qui sont distillées comme ça, pareil dans les documents, tu vas comprendre des choses dans les documents que tu vas lire à droite à gauche, il y en a plein, vraiment énormément des documents. Et pareil, tu vas avoir des informations sur. Tu vas comprendre à quoi servaient les prêtres, que les prêtres ils pouvaient passer d'un temple à l'autre, etc. Enfin, ça regorge de petites informations qui ne sont pas des trucs du. Alors, en année, dans l'an un tel, il se passait ça. Enfin voilà, c'est vraiment hyper plaisant à découvrir.
Ok. Et ma foi, ça a l'air d'être très bien, très bien.
Voilà, alors il y a toujours le côté un petit peu répétitif, hein, mais on l'a franchement beaucoup moins. Et pareil, un petit truc rigolo, on peut customiser Bayek. On ramasse tout le long du jeu des tenues, mais j'en ai rien à foutre des tenues. non, parce que je trouve que sa première tenue, c'est la plus classe. Par contre, on peut. Au début, il a les cheveux longs, il a une grosse barbe, et quand il rencontre Aya la première fois, il se refait une beauté, donc il se rase la tête et il se rase la barbe. Après, c'est le goût de chacun, mais je trouve qu'il a pas du tout la classe quand il a plus rien sur la tête. Donc voilà. Donc pendant toute l'aventure, je l'ai laissé à la mode pouilleux. Voilà.
D'accord.
Un truc de bien aussi, j'ai oublié de le dire et je voulais le mentionner, c'est que tous ces trucs de méta, d'abstergo et tout ça, c'est quasiment inexistant. Et ça fait du bien, franchement ça fait du bien. Trois fois, il me semble, pendant l'aventure principale, t'es obligé de revenir de sortir trois fois de l'animus pendant 5 minutes au maximum. Sinon, enfin une fois c'est pendant 5 minutes au maximum. Sinon, c'est genre 2 minutes, histoire d'avoir une scène de dialogue, et hop, tu retournes dans l'animus. C'est franchement plaisant, parce que moi, leur truc de aller dans le passé, machin, j'en ai rien à carrer de ce qui se passe dans le temps présent.
La sensibilité SF, quoi, c'est tout.
Ouais, non, mais... quoi, enfin, non, là, vraiment, il y a vraiment... enfin, c'est un nouvel arc narratif, enfin, un nouveau rebondissement dans la ligne temporelle du présent. Tu sens que c'est une nouvelle façon de faire. Ils ont amorcé un nouveau truc, mais c'est tout, quoi. Ça va pas plus loin que ça. Il y a beaucoup moins de choses du présent que dans le premier épisode, même. Dans le premier épisode, on revenait assez régulièrement et puis on apprenait des trucs. Et puis il y avait des trucs assez obscurs. Là, vraiment, il y a quasiment rien. Il y a juste ce qu'il faut pour pas en avoir trop. Et même pour pas en avoir trop quand on s'en fout complètement de ce truc.
D'accord.
Donc voilà. Donc ils ont tout gagné. Franchement, ils ont tout gagné. Et ne serait-ce que le fait de me faire arriver au bout d'un jeu Assassin's Creed, déjà, ils ont gagné. Voilà. Donc, ça, c'est Assassin's Creed. Hein, c'est Assassin's Creed Origins. C'est fait par Ubi. Ça coûte 59,99€ et n'hésitez pas à attendre un moins 50% pour, comme moi, le récupérer à 30€. Mais j'aurais tendance à dire qu'il vaut quand même ces 60€. Mais si on est fan de la série Assassin's Creed, si on n'est pas fan, attendez quand même qu'il baisse en prix. Un 30€, c'est franchement très très honnête. Je préfère payer un 60€ pour un Horizon Zero Dawn que pour un Assassin's Creed Origin, mais si vous êtes fan des assassins, celui-là, les 60€, il est bon. Voilà. Nous, on se retrouve le mois prochain avec, cette fois-ci, pour de vrai, tu vas nous faire ton jeu que tu nous avais teasé le mois dernier.
C'est ça. Alors, oui, on va dire que oui. Voilà. Que j'ai quand même réussi à y jouer un petit peu et je devrais pouvoir y jouer aussi quand même.
De toute façon, ça fait deux fois que tu prends un engagement. Si tu casses ton engagement le mois prochain, ça, tu es répudié.
Après, en même temps, on ne dit jamais 203, donc je sais pas.
Hein. Donc voilà.
Je devrais avoir le temps d'y jouer, voilà. et de pouvoir faire honneur à ce jeu.
Comme tu feras un gros jeu, moi je vous parlerai d'un petit jeu indépendant qui est bien sympathique et dont le nom ne reflète absolument pas son contenu. Voilà. Allez, on se dit au mois prochain. Jouez bien, faites un bisou à vos loulous et ciao à tous.
Ciao à tous.